Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 13 août 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Les ambassadeurs britanniques et russes en poste à Téhéran ont été convoqués au ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran sympathise avec l'Algérie pour les incendies de forêts massifs. Le président syrien Bachar al-Assad adresse un télégramme de condoléances et de solidarité à son homologue algérien. Au Yémen, la résistance yéménite lance une sévère mise en garde aux mercenaires à la solde du gouvernement et démissionnaire. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Suite à la publication d'une photo de la récente rencontre entre les ambassadeurs russes et britanniques à Téhéran à l'ambassade de Russie, les ambassadeurs russes et britanniques ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur russe a été convoqué par le ministère iranien des Affaires étrangères pour donner des explications sur la publication de la photo sur Twitter et qui le montre avec son homologue britannique en réunion sur la véranda de l'ambassade de Russie à Téhéran, le même endroit où a eu lieu une réunion en 1943 entre les dirigeants soviétiques, britanniques et américains de l'époque. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique, d'autant plus que les responsables iraniens ont réagi sévèrement à la publication de cette photo controversée. L'Iran sympathise avec l'Algérie pour les incendies de forêts massives. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple algérien, ainsi qu'aux familles des victimes suite aux gigantesques incendies de forêts dans les forêts algériennes. Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a souhaité une bonne santé aux victimes des gigantesques incendies dans les forêts algériennes. Dans ce contexte, le président syrien Bachar al-Assad a adressé un télégramme de condoléances et de solidarité avec l'Algérie pour les victimes des incendies. Le président syrien Bachar al-Assad a adressé, selon l'agence de presse syrienne Sana, un télégramme de condoléances et de solidarité au président algérien Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien pour les victimes de vastes incendies qui avaient éclaté dans plusieurs régions dans le pays ces derniers jours, implorant Dieu pour la protection de l'Algérie de tout mal. Dans son télégramme, le président Rebda Assad a exprimé sa douleur pour la catastrophe qui s'était produite en Algérie à cause des incendies qui avaient éclaté dans la province de Tizi Ouzou et qui avaient fait de nombreuses victimes parmi les civils et les militaires, disant « Nous en Syrie, nous partageons avec vous les sentiments de chagrin et de douleur. » Et le président des Syriens d'ajouter « Nous présentons à vous, au peuple algérien frère, aux familles des victimes, nos sincères condoléances et nous implorons Dieu pour le repos de leurs âmes, pour le prompt établissement de tous les blessés et pour la protection de votre pays de tout mal. » Si les mercenaires à la solde du gouvernement démissionnaire n'acceptent pas le plan des leaders d'Ansar Allah pour Marib, les forces de l'armée partiront vers cette province, a déclaré le gouverneur de Marib au sein du gouvernement de Salih National, dont le siège se trouve à Sanar. Ali Taïman a souligné que le gouvernement de Salih National était prêt à s'asseoir à la table du dialogue avec le gouverneur provincial Sultan Al-Arada pour examiner le plan de cesser le feu à Marib. Nos forces armées sont actuellement déployées près de la ville de Marib et elles ont déjà pris le contrôle de 80% de la province, a déclaré Ali Taïman à la chaîne d'information Al-Mayadin. Et d'ajouter, les forces de l'armée sont à environ 7 km de Marib et nous avons accepté le plan d'Abdelmalek Al-Houssi, leader d'Ansar Allah pour une trêve, bien que les mercenaires aient bombardé les femmes et les enfants, a souligné le gouverneur de Marib au sein du gouvernement de Salih National. Au moins 45 rebelles du groupe armé d'origine ougandaise de forces démocratiques alliées ont été tués par les forces armées en territoire de Beni, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a déclaré l'armée de la RDC. Selon le porte-parole de l'armée, dans le secteur de Beni, ces rebelles ont été tués à l'occasion d'un pilonnage intense de leur bastion situé dans la forêt de Moualika par les forces armées. Selon le porte-parole, les forces régulières n'ont enregistré aucune perte de vie de son sang lors de cette opération en cours dans cette zone depuis la journée de mercredi. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Les ambassadeurs britanniques et russes convoqués au ministère iranien des Affaires étrangères, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Et suite à la publication d'une photo de la récente rencontre entre les ambassadeurs russes et britanniques à l'ambassade de Russie à Téhéran, l'ambassadeur britannique Simon Reb Charsleaf a également été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères. Le directeur général du département pour l'Europe occidentale du ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur britannique, estimant que cet acte négligent avait blessé les sentiments nationaux et la fierté du peuple iranien. Il a souligné que le grand peuple iranien a toujours prouvé à travers l'histoire qu'il rejetait et résistait fermement à tout mouvement né de pensée arrogante. Et l'ambassadeur de Russie à Téhéran a aussi été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères suite à la publication par l'ambassade de Moscou d'une photo controversée qui a été prise pour rappeler une conférence de la Seconde Guerre mondiale à Téhéran. L'ambassadeur russe Levan Dehavgarian a été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères pour donner des explications sur la publication de la photo sur Twitter qui le montre avec son homologue britannique en réunion sur la véranda de l'ambassade de Russie à Téhéran, le même endroit où a eu lieu une réunion en 1943 entre les dirigeants de soviétiques, américains, britanniques de l'époque, à savoir Joseph Staline, Franklin Roosevelt et Winston Churchill, deux ans après l'invasion anglo-soviétique de l'Iran. Et toujours dans ce droit fil, après avoir entendu ces explications, le directeur général du département Eurasie du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la publication d'une telle photo était inacceptable et qu'il était indispensable que les missions étrangères portent une attention particulière aux exigences politiques et culturelles et historiques de l'État hôte. La photo a vite circulé et provoqué l'indignation générale chez les Iraniens. Les hauts responsables du pays l'ont considéré comme une insulte à la République islamique d'Iran. Sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, l'a qualifié d'extrêmement inapproprié et a déclaré « Ai-je besoin de rappeler à tous qu'août 2021 n'est ni août 1941 ni décembre 1942 ». Le peuple iranien a montré, y compris lors des pourparlers du plan global d'action conjoint, que son destin ne peut jamais être soumis aux décisions des ambassades étrangères ou des puissances étrangères, a souligné Mohammad Javad Zarif. De même, le président du Parlement iranien, Mohammad Barrel Ghalibaf, a qualifié la rencontre entre les deux ambassadeurs russes et britanniques d'inappropriée et d'incompatible avec les protocoles diplomatiques appelant le ministère iranien des Affaires étrangères à donner suite à cette affaire. Les deux ambassadeurs doivent rapidement présenter des excuses officielles, sinon une action diplomatique ferme sera nécessaire, a souligné le président du Parlement iranien, Mohammad Barrel Ghalibaf. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, des débats. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder des récents événements qui se sont passés dans les relations entre l'Iran et les États-Unis, également entre l'Iran et de certains pays européens. Si vous avez suivi ces derniers jours l'actualité, vous en êtes rendu compte que ces derniers jours, les États-Unis et certains pays européens, très particulièrement la Grande-Bretagne et aussi le régime sioniste, ont orchestré une campagne d'intoxication sans précédent contre l'Iran, en avançant des accusations sans fondement contre ce pays en ce qui concerne cette attaque qui avait été menée tout récemment contre un navire dans la mer demande. C'est dans ce cadre que les Américains ont tout fait pour obtenir une condamnation de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU, des mêmes sons de cloche à Londres, où les autorités britanniques ont avancé des accusations sans fondement contre eux. Et l'Iran et le régime israélien, aussi comme toujours, a essayé de faire chanter, si vous voulez, les États-Unis et les pays des Européens. Et dans ce contexte, il y a eu cet entretien téléphonique entre le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue français Emmanuel Macron. Ensuite, il y a eu cette réaction du côté des autorités militaires iraniennes qui ont mis en garde contre toute agression contre l'Iran, qui recevra une réponse cuisante de la part de l'Iran. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Mikhail Egorov. M. Egorov, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité.
Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation, M. Egorov. J'ai également en ligne avec moi pour cette émission un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguier, depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher M. Neurostin, bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité, M. Mikhail Egorov, à Moscou.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, cette campagne d'intoxication orchestrée contre l'Iran, ces tentatives du côté américain, britannique et israélien pour en fait obtenir une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran. Comment vous l'expliquez, Monsieur Dortiguier ?
Eh bien, il s'agit là d'abord d'une manœuvre de fond, une manœuvre, disons, d'intimidation de l'Iran et par une sorte de bluff tout à fait comparable à ce qui s'était produit il y a très longtemps, si je remonte à la fin du 19e siècle, quand les Américains ont prétendu qu'un de leurs navires avait été attaqué à un rade de la Havane, vous savez, ce qui avait donné comme prétexte l'invasion de Cuba. Ce sont des procédés, disons, de chantage, après de chantage. Ce sont des pièges, disons, pour l'opinion publique. Ils ont pris comme prétexte, bien sûr, vous le savez, l'incendie à bord de ce bateau tenu par un milliardaire, disons, il va et bien dans le bâtiment, je crois. Ceci a fait chauffer une atmosphère, disons. Je reconnais que le ministre des Affaires étrangères britannique, Raab, a été vraiment très violent contre l'Iran. Et donc, il s'agit à notre avis, mais ce n'est pas un avis personnel, je crois que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de gens, disons indépendants, que nous avons affaire donc à un piège pour pouvoir intimider l'Iran. C'est surtout cela, voyez-vous, c'est-à-dire faire en sorte que dans les négociations qui vont venir, l'Iran ne défende pas ses propres intérêts, car au lieu de puisse parler, au lieu que votre pays puisse parler, il est déjà intimidé, disons, par un concert de voix qui menace de le traîner devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Mmh. Tout ceci, disons, est un mauvais jeu, mais malheureusement, un jeu qui, dans l'histoire, disons, est, si je puis dire, régulier, c'est-à-dire qu'il s'agit là véritablement d'un procédé de stupéfaction, vous voyez. Naturellement, nous savons que l'Iran résiste à cela. Mais notre opinion publique est évidemment sidérée aussi, et je crois que ceci a influé peut-être l'énervement, enfin, je n'ose pas dire l'énervement, mais disons un certain ton dans la conversation avec le président de la République iranienne, de notre président de la République.
Monsieur Dortiguier, on va y revenir en fait, revenir sur cet entretien téléphonique entre le président Raisi et son homologue français Emmanuel Macron. On va y revenir en fait plus tard dans le cadre de cette même émission également. Monsieur Egorov, vous venez d'entendre les explications de Monsieur Dortiguier. Comment expliquez-vous en fait cette multiplication des pressions contre l'Iran dans l'état actuel des choses?
choses, ce recours, si vous voulez, au langage de menace contre de ce pays. Comment peut-on en fait interpréter une telle approche adoptée ces jours-ci par les Américains, les Britanniques et très particulièrement les Israéliens?
Oui, je pense que ce que M. Dortigué a dit est très juste. Je rejoins entièrement ce qu'il a dit et je le salue également par la même occasion. Je pense qu'effectivement, il s'agit d'une tentative évidente d'intimidation vis-à-vis de l'Iran, une tentative de chantage. Ceci étant dit, j'ajouterais certainement que je pense que c'est aussi une tentative de mettre une pression supplémentaire sur l'Iran, la République islamique d'Iran dans le cadre des négociations qui sont menées par rapport à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, sachant que l'Iran jusqu'à maintenant a fait preuve d'une inflexibilité impressionnante, et d'autant plus que ce n'est pas une inflexibilité illogique, au contraire, c'est une défense de ses intérêts dans le cadre d'un accord qui a été violé par une seule partie, à savoir les États-Unis d'Amérique, et donc l'Iran a émis des conditions que les Américains ont beaucoup de mal à accepter jusqu'à maintenant, et donc cette nouvelle attaque qui vise l'Iran, effectivement, je pense qu'on peut le voir aussi dans le sens de mettre une pression supplémentaire de l'Iran dans le cadre de ce dossier. Il y a aussi un autre point qui je pense, n'est pas étranger à cette affaire, c'est le fait qu'aujourd'hui, on assiste à une montée non seulement en puissance de l'Iran sur la scène régionale et internationale en tant que grande puissance géopolitique, en tant que grande puissance civilisationnelle, qui a une influence qui n'est plus à démontrer aussi bien dans le cadre régional, à la région à laquelle l'Iran appartient, mais aussi de plus en plus dans le cadre réellement international, et aussi parce que l'Iran, les positions de l'Iran, son prestige, sont de plus en plus, et devient de plus en plus évident au sein de l'opinion publique internationale. Je pense qu'aujourd'hui, l'Iran, avec d'autres puissances majeures du monde, du monde, qui sont des puissances non occidentales et des partisans résolus du monde multipolaire, on voit bien que le positionnement de l'Iran aujourd'hui trouve un écho très favorable, de plus en plus favorable, au sein d'une large frange de l'opinion publique internationale, y compris même dans les pays occidentaux. Cela inquiète très fortement l'establishment de l'Occident et bien sûr ses autres alliés, notamment la qualité du régime sioniste. Et je pense que tous ces éléments font qu'ils sont effectivement en train de chercher chaque... ils ne ratent pas la moindre occasion pour pouvoir faire du chantage à l'Iran, essayer de l'intimider et essayer de le présenter comme un déstabilisateur, même si cette propagande et ces attaques ne marchent pas très bien, aussi bien dans le cadre de l'opinion publique internationale qui ne se laisse plus manipuler. On voit bien qu'il y a un éveil de conscience sans précédent aujourd'hui à l'ère multipolaire au sein de l'opinion publique de pratiquement toutes les régions du monde, et aussi grâce au fait que même au Conseil de sécurité de l'ONU que vous avez mentionné tout à l'heure dans le reportage, dans la présentation, il y a aujourd'hui un bloc qui s'oppose à ces velléités et qui remet les élites occidentales, l'establishment occidental à la place qui est la sienne, à savoir d'une extrême minorité planétaire.
Monsieur Dortigiet, Monsieur Egorov vient de faire allusion à cette, si vous voulez, approche ferme de l'Iran au cours des négociations de Vienne. En fait, il a qualifié cette approche de l'Iran d'inflexible et tout à fait logique, parce que l'Iran insiste sur le point que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord de nucléaire de 2015. Alors, ils devront revenir, si vous voulez, à leurs engagements. Et s'agissant des Européens également, l'Iran, si vous voulez, critique le non-respect de la partie européenne de ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et s'agissant de cet entretien téléphonique entre le président Raisi et son homologue français Emmanuel Macron, le président Raisi a insisté sur ce même point en disant que voilà, de toute négociation doit garantir les intérêts, les droits, d'ailleurs légitimes, du peuple iranien, M. Dortigié.
Oui, en effet, c'est pour cela que, pour reprendre ce qu'a dit M. Egorov, il ne s'agit pas d'une inflexibilité idéologique de la part de l'Iran, mais peut-on dire d'une inflexibilité juridique. C'est-à-dire, il suffit simplement de rappeler à tout homme de bon sens qu'un accord qui a été conclu n'a été conclu que sur des règles, des faits, disons, qui ont été établis, qui ont été convenus de part et d'autre. Il s'agit naturellement de conserver cet accord qui a donné cet accord de Vienne, les termes de l'accord de Vienne. L'Iran ne fait qu'appliquer les conséquences de cet accord de Vienne. Il demande à ses
interlocuteurs de faire de même. Et c'est une affaire très simple. Mais le tapage, ou disons la déstabilisation qui est faite par cet effort de propagande, disons, de ce coup de force, le pays ne peut durer qu'un temps. D'ailleurs, il n'a que l'effet d'un coup de tonnerre. C'est-à-dire que le coup de tonnerre, une fois passé, évidemment, bon, le ciel continue. Je crois que c'est la même chose. Nous nous trouvons devant des responsabilités. Et dans la conversation entre M. Macron et M. Raisi, évidemment, il était question de cela. Alors, la presse chez nous, je dis ça très rapidement, la presse chez nous a voulu retenir que le fait que M. Macron avait mis en garde l'Iran contre toute entreprise de fabrication d'armes atomiques, etc. Mais tout le monde sait qu'il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas du tout de fabriquer une arme atomique pour l'Iran, que ceci d'ailleurs, il a refusé, l'Iran l'a refusé pour des raisons idéologiques, pour des raisons philosophiques, disons, ou religieuses, et que, disons, l'affaire est autre. L'affaire, c'est laisser la liberté à l'Iran d'agir comme il l'entend, de se développer, sans qu'il y ait des suspicions. On ne peut pas, évidemment, construire des relations internationales sur des arrière-pensées. En revanche, on doit et on peut construire, il est nécessaire de le faire, d'établir des relations internationales, économiques, financières, etc., qui sont à l'avantage des pays européens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut sortir d'une crise, ou tout au moins assurer une bonne santé à l'économie internationale, que si les partenaires agissent en respectant, bien sûr, les règles juridiques. C'est ce que demande l'Iran. Tout autre discours est un discours d'arrière-pensée. C'est un discours, disons, qui n'a absolument aucun caractère sérieux, aucun caractère politique, et bien sûr qui est entièrement immoral.
Monsieur Egorov, vous venez de le dire tout à l'heure dans une partie de votre commentaire, que l'objectif de ces récents agissements anti-iraniens est d'intimider l'Iran, mais ça ne marche pas. Monsieur Egorov, si ça ne marche pas, ce n'est pas parce que sur le plan politique, l'Iran est en position de force. Vous l'avez dit, en fait, cette politique adoptée par l'Iran au cours des négociations de Vienne bénéficie largement du soutien de l'opinion publique internationale. Et sur le plan politique également, l'Iran, si concerne le Conseil de sécurité, bénéficie du soutien de deux grands pays, d'ailleurs membres du Conseil de sécurité, à savoir la Chine et la Russie. Et sur le plan militaire également, l'Iran est plus fort aujourd'hui que de jamais. Et les autorités militaires iraniennes ont promis en fait une riposte décuisante à tout aventurisme militaire de la part de quelques pays que ce soit, M. Egorov.
Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, l'Iran se trouve indéniablement en position de force, de par déjà sa conviction idéologique, de par du fait, dont j'en suis convaincu, de la justesse de son approche dans les affaires régionales comme internationales, de son positionnement en faveur du monde multipolaire qui est devenu une réalité. Bien sûr, il y a aussi, c'est un point très important, cette alliance au niveau du triumvirat Chine-Russie-Iran, qui se traduit aussi bien dans la sphère politico-diplomatique que militaro-sécuritaire, à travers des exercices conjoints, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral. Il y a bien sûr aussi cet aspect que j'ai mentionné tout à l'heure de l'opinion publique internationale qui, pour beaucoup, sympathise vis-à-vis de l'Iran, aussi bien dans le dossier concernant le nucléaire iranien, mais aussi sur d'autres questions de l'actualité qui concernent le proche, le Moyen-Orient, et plus généralement sa vision et son approche à l'international. Et vous avez bien fait de mentionner l'aspect militaire, parce qu'effectivement, vous savez que le magazine américain spécialisé sur les questions de la puissance des principales armées du monde, le magazine Global Firepower, a fait le classement pour l'année, il a mis à jour le classement pour l'année 2021. Et il faut savoir que l'Iran est classé tout simplement par ce magazine américain comme étant la 14e principale puissance militaire du monde devant l'entité sioniste, qui, si je ne me trompe pas, est classée autour des 20e places. En tout cas, elle est derrière l'Iran, alors que l'Israël, jusqu'à aujourd'hui, essayait de se positionner comme la principale force militaire régionale. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas. Donc, toutes ces raisons-là font qu'effectivement, ça crée un degré d'hystérie supplémentaire au sein de l'establishment washingtonien, atlantiste, plus généralement occidental, et de ses affiliés, comme évidemment l'entité sioniste. Et c'est pour ça que l'Iran continue de subir ces attaques. Mais je pense que l'Iran est fermement préparé à tout cela. Et on voit bien que la capacité de résistance à tous les niveaux de la République islamique est plus forte que jamais.
Monsieur Tortiguet, est-ce que vous m'entendez, monsieur Tortiguet ? Monsieur d'Ortiguier, est-ce que vous m'entendez? Je crois que notre liaison avec Monsieur d'Ortiguier a été perdue. On va continuer avec vous, Monsieur Egorov, notre émission. Monsieur Egorov, pensez-vous que les Européens vont faire le jeu du régime israélien en ce qui concerne en fait ces relations entre l'Iran et l'Union européenne?
Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand il s'agit des régimes des pays occidentaux et notamment européens, on ne peut pas parler d'une souveraineté véritable. Il n'y a pas de souveraineté au niveau de ces pays. Et ces pays-là vont continuer à faire le jeu, plutôt les prérogatives qui leur sont envoyées depuis Washington. Et quand il s'agit de Washington et de Tel Aviv, je ne pense pas qu'il y a besoin de faire des commentaires supplémentaires pour parler du niveau d'interaction qui existe entre ces deux entités. Donc il est évident que compte tenu du fait que Washington continuera à fond à promouvoir les intérêts de son allié israélien et les régimes occidentaux européens, en bon suiveur de Washington, continueront d'appliquer les prérogatives que leur ordonne l'establishment washingtonien. C'est une réalité triste pour les Européens, pour les pays européens. Mais malheureusement, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Je pense que malheureusement, c'est une réalité avec laquelle il faut compter.
Vous voulez dire, M. Gorov, c'est en fait de l'absence d'indépendance et d'action par rapport à Washington. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on l'a noté, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans les milieux politiques et médiatiques. Également, désormais, l'indépendance d'action de l'Europe par rapport, si vous voulez, à Tel Aviv, M. Egorov.
Oui, tout à fait, puisque tout est lié, comme on le voit, sachant que Washington, même quand il se retrouve dans l'isolation la plus totale au niveau de l'ONU, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, ne serait-ce que sur cet exemple-là, malgré tout, Washington continue obstinément à soutenir son allié israélien et les Européens qui appliquent à la règle et qui font tout simplement un travail compétent au niveau international, évidemment, directement ou indirectement, appliquent également les volontés, les velléités de Tel Aviv. Donc, c'est une.
Notre contact avec Toulouse, avec M. Pierre d'Ortiguier, a été rétabli fort heureusement. D'ailleurs, M. d'Ortiguier, on était en train de parler avec M. Egorov. On disait que voilà, l'Iran a suffisamment de moyens sur le plan politique et militaire pour se défendre. Et M. Egorov est d'avis que cet aspect militaire également est très important. Autrement dit, l'Iran a, si vous voulez, des capacités militaires défensives nécessaires pour se défendre. Est-ce votre avis également?
Oui, en effet. C'est-à-dire, si on en voulait la preuve, ce serait justement dans les réactions américaines ou les réactions, disons, de leurs clients ou de leurs sionistes et autres, c'est justement parce que l'Iran n'est pas faible, qu'ils savent que la force est non seulement soutenue par d'autres pays, mais qu'il a une force intrinsèque et surtout une capacité technologique qui lui permet de résister et même de tenir donc devant le blocus qui lui est fait. C'est cela qui inquiète justement tous ceux qui veulent continuer une position de force périmée, bien sûr, en Orient. Et je crois que c'est là qu'il faut chercher ces manœuvres d'intimidation verbale, par exemple, et ces manœuvres, disons, qui n'aboutiront pas, bien sûr, de mise à l'accusation aux Nations Unies et autres. Tout ceci c'est quelque chose qui n'a pas de sens, je veux dire, qui sera arrêté même par le Conseil de sécurité, qui sera arrêté, disons, par l'immense majorité des pays qui composent cette Société des Nations nouvelles. Je crois que pour le dire en un mot, disons, on pourrait reprendre cette formule de Gaulle d'autrefois, que la seule politique qui vaille, c'est la politique qui tient compte des réalités. Or, la politique contre l'Iran ne tient pas compte de la réalité de l'Iran, de la réalité des alliances de l'Iran, et disons qu'il ne tient pas compte de la nécessité d'un équilibre qui est cherché, justement, en Orient. La résistance, l'axe de la résistance aujourd'hui, c'est justement l'effort de maintenir l'équilibre, de maintenir, disons, une réalité contre des gens qui voudraient écraser tous les régimes et qui voudraient, disons, établir un chaos permanent, comme les autres, comme certains parlaient de la révolution permanente. Eh bien, c'est ce que veulent certains milieux américains, les conservateurs, les néoconservateurs, etc. Je crois que tout ceci est résumé, cette politique néoconservatrice est résumée dans l'attitude diplomatique de l'Angleterre, également certaines villes en France, mais même en France et en Europe, comme vous l'avez bien dit avec M. Egorov, eh bien, le Conseil européen et les États européens, je pense à l'Allemagne en premier, qui a toujours eu d'excellentes relations avec l'Iran, évidemment, sont opposés à cette politique. Les milieux réels, je veux dire. C'est ça, les milieux, non pas les milieux politiques, forcément, mais les milieux réels, ceux qui font l'industrie, ceux qui font l'activité économique, sont opposés, justement, à cette sorte de guerre contre l'Iran, de guerre froide, si vous voulez. Ceci est considéré comme non seulement dépassé, mais dangereux même pour la santé du monde.
Et dangereux même pour les intérêts européens, M. Dortiguet, très rapidement.
Et bien sûr, justement, c'est dangereux pour les intérêts européens. C'est pour ça qu'il faut, faut avoir confiance, justement, dans ces réalités économiques, car elles sont ce que, justement, De Gaulle appelait des réalités qui font la seule politique valable.
Mmh. Un dernier mot pour conclure notre émission, M. Egorov, s'il vous plaît.
Moi, je pense que ce qu'il faut dire, et encore une fois, je rejoins entièrement ce qu'a dit M. Dortiguet, je pense que l'Iran n'est pas le genre de pays qui se laisse intimider par de quelconque chantage, fausses attaques, provocations en tout genre. Je pense que l'Iran continuera efficacement à défendre ses intérêts nationaux ainsi que les intérêts de ses alliés. Je pense que l'Iran continuera toujours aussi efficacement à bâtir et à renforcer son alliance avec ses principaux alliés internationaux comme la Chine et la Russie et plus généralement tous les partisans de l'ordre multipolaire mondial qui est devenu une réalité. Et je pense qu'au final, tous ceux qui aujourd'hui continuent d'essayer d'attaquer l'Iran et d'essayer de le déstabiliser, je pense que tout ce chaos se retournera contre
Merci
eux
beaucoup.
Avec toutes les conséquences qui en découlent.
Merci infiniment, M. Mikhail Egorov, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission, je crois, depuis Rabat, si je ne me trompe pas. Merci infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission. Et mes vifs remerciements vont également à Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Parole d'experts.
En France, au moins 129 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés devront contrôler le pass sanitaire de leurs clients selon les dernières déclarations du gouvernement. La plupart sont situés dans le sud de la France et en Île-de-France. Le gouvernement a également annoncé la fin de la gratuité des tests hors prescription médicale. Les tests de dépistage du Covid-19 sans prescription médicale seront payants à partir de la mi-octobre, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Comment peut-on analyser ces décisions du gouvernement pour gérer cette crise pandémique en France ? Décryptage avec Philippe Hugon, analyste.
Alors, l'obligation d'avoir un pass sanitaire pour se faire soigner correspond à la mise en place d'une véritable dictature. Donc, soit aujourd'hui on obéit à la politique gouvernementale, vous pouvez vous faire soigner, soit vous refusez ce pass sanitaire et vous n'avez plus accès aux soins. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse parler aujourd'hui de République française, mais de dictature française. D'autant plus que tous ces vaccins ont quand même été mis au point un petit peu à la va-vite. Hein. Ça a été très, très vite mis sur le marché. Donc, on n'a aucun recul sur les gens qui sont vaccinés. Je vous rappelle que l'hépatite B, l'hépatite C, on a trouvé un certain nombre de vaccins pour lutter contre ces hépatites. Le seul problème, c'est qu'au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de sujets vaccinés déclenchaient des maladies neurologiques comme des sclérose en plaques, des maladies de Charcot, des Parkinson et bien encore bien d'autres choses. Donc, je pense qu'on n'a pas du tout le recul actuellement sur cette vaccination pour pouvoir l'accepter. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, un seul laboratoire pharmaceutique prend le temps de le mettre au point, c'est Sanofi, qui est un laboratoire français. Donc, moi, j'inciterais les gens à se faire vacciner avec ce vaccin, avec le Sanofi, puisqu'ils ont pris le temps de le mettre au point, ils ont pris le temps de mesurer les conséquences d'un vaccin mis au point à la va-vite. Donc, c'est plutôt un excellent plan point pour la vaccination et pour les laboratoires français. Je précise bien que je ne suis pas contre les vaccinations, hein. C'est plutôt une très bonne chose. Mais il faut du temps pour mettre au point un vaccin et il faut avoir suffisamment de recul pour ne pas déclencher des effets secondaires qui sont très importants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des dizaines de morts suite à la vaccination et des milliers de gens malades. Donc, et ce gouvernement, bien sûr, Macron n'est pas un président de République, c'est un dictateur qui impose sa vue des choses, sa vue d'ensemble de sa gouvernance. Et sa gouvernance, elle est extrêmement dangereuse. On a des précédents dans l'histoire de dictateurs qui ont très très mal fini. Et je pense que si Macron devrait faire très très attention maintenant, parce qu'il est bien possible que dans les années qui viennent, qu'il soit assassiné par des gens dont les enfants seront morts de cette vaccination. D'autant plus que c'est un homme extrêmement dangereux. Hein. Il suffit de le regarder dans les yeux pour voir que c'est un homme dérangé mentalement. Il est instable psychologiquement, c'est un capricieux, c'est un coléreux, c'est un petit criseux qui pique sa crise quand les gens ne font pas ce qu'ils demandent. Donc c'est un homme extrêmement irresponsable et incompétent. Et on a ce gouvernement d'incompétents.
L'extermination nucléaire des habitants d'Hiroshima et de Nagasaki et ses motivations réelles. La guerre en Europe s'était terminée le 9 mai 1945 par la victoire totale des armées alliées contre l'Allemagne nazie. En effet, moins de trois semaines plus tôt, le 21 avril 1945, les premiers soldats soviétiques étaient entrés dans Berlin, la capitale du Reich. Alors que les soldats de l'armée rouge n'étaient plus qu'à 200 mètres du bunker où ils s'étaient terrés, Hitler se suicidait le 30 avril. Le lendemain, le 1er mai, c'était au tour de Goebbels et le 2 mai 1945, le drapeau soviétique était tissé sur le Reichstag. Cela au prix en URSS de 27 millions de morts et d'inimaginables destructions pour un citoyen français ou américain. 1700 villes et cités, plus de 70 000 bourgs et villages, 32 000 entreprises industrielles, 98 000 kolkhoz, 1876 sovkhoz. Les Hitlériens dynamitèrent 65 000 km de voies ferrées, mirent hors d'usage ou envoyèrent en Allemagne 16 000 locomotives et 428 000 wagons. La richesse nationale du pays diminua de 30%. Avant le commencement de la guerre mondiale, les troupes soviéto-mongoles se battaient du 11 mai au 16 septembre 1939 contre les envahisseurs nippo-mandchous à Kalkin, dans Gaule, donc à la frontière entre la République populaire de Mongolie et l'État du Manchukuo, mis en place par les Japonais. À l'issue de cette bataille dite de Kalkin-Gaul, l'armée rouge fut victorieuse et repoussa les Japonais. Pendant que les troupes s'affrontaient sur le terrain, l'Union soviétique signait le 23 août 1939 un traité de non-agression avec l'Allemagne nazie. Les Japonais perdirent alors l'espoir que l'armée rouge puisse être écartelée entre deux fronts. Le 15 septembre de la même année, l'ambassadeur du Japon, Togi Shigenori, finissait par signer avec Molotov le cessez-le-feu proposé dès le 22 août 1939 par l'Union soviétique. Après des négociations, le Japon accepte en 1940 la frontière défendue par la République populaire de Mongolie et l'URSS. Le 13 avril 1941, enfin, l'Union soviétique et le Japon signent un traité de non-agression. Heureusement, car le 22 juin était lancée l'opération Barbarossa qui vit l'Allemagne fasciste déclencher la guerre totale contre le judéo-bolchevisme. Tokyo n'ouvrira pas de second front en juin 1941, malgré le pacte anti-Comintern signé le 25 novembre 1936 entre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie, rejoint par l'Italie le 6 novembre 1937, le Royaume de Hongrie le 25 février 1939 et l'Espagne franquiste le 27 mars 1939. Une fois la guerre terminée en Europe, l'Union soviétique put, conformément aux engagements pris par Staline à Yalta, déclencher la guerre contre le Japon militariste. L'armée rouge envahit, comme prévu à l'aube du 9 août 1945, la Mandchourie, rappelle l'historienne Annie Lacroix-Ritz, avec 1 500 000 hommes et une supériorité en tank de 5 contre 1 et progressa rapidement. Le lancement des deux bombes atomiques ne peut être expliqué indépendamment de ce contexte historique. Face aux légendes inventées pour justifier l'extermination instantanée ou fulgurante dans un premier temps, car quantité d'autres victimes décéderont plus tard, de centaines de milliers de civils, bébés, enfants, femmes, hommes, personnes âgées, handicapés physiques, il existe un ouvrage consacré à l'ombre d'Hiroshima, passionnant à un double titre, civique et scientifique. Le 7 août, au poste de quarantaine militaire de Ninoshima, à environ 4 km au large de Hiroshima, beaucoup de ceux atteints de profondes brûlures dues à la chaleur de l'explosion restent étendus ainsi sans bouger, respirant à peine, jusqu'à ce que la vie s'en aille. Annie Lacroix-Ritz a annoncé que les historiens sollicités par les deux directeurs de la publication de ce livre, spécialistes de l'histoire politique et militaire de la guerre froide, parfois depuis plusieurs décennies, se sont attelés à la tâche scientifique. Ils ont démontré dans ce livre synthèse, archives à l'appui, comme dans leurs travaux antérieurs, à quel point le mythe était creux et comment cet acte de barbarie fut, selon une expression de 1948 citée par Messer, moins le dernier acte militaire de la Deuxième Guerre mondiale que la première opération majeure de la guerre diplomatique froide avec la Russie, qu'il convenait donc d'intimider pour lui faire admettre qu'elle ne pourrait autant qu'elle l'espérait tirer profit de sa victoire militaire très chèrement acquise sur le continent européen. Ces crimes commis à l'encontre des populations civiles au Japon ont été parmi les plus terribles crimes motivés pour l'essentiel par l'anticommunisme, ici sous la forme de l'antisoviétisme, et sans doute également non dépourvu d'une dose déterminante de racisme anti-asiatique. Des crimes anticommunistes teintés de racisme anti-asiatique succéderont. Claude Lanzmann, le cinéaste à l'origine des films Shoah et Napalm, rappelle donc « La guerre de Corée a été en vérité une guerre de destruction massive. On compte 4 milliards de morts civiles, 500 000 soldats nord-coréens tués, sans oublier les 320 000 volontaires populaires chinois qui avaient été envoyés pour les secourir. Les Américains, le général MacArthur le premier, avaient un seul but, détruire la Corée, réitérant ainsi Hiroshima. Mais le président Truman refusa. À la guerre de Corée succédera la guerre anticommuniste en Indochine de 1946 à 1954 et la guerre du Vietnam ou Deuxième guerre d'Indochine de 1955 à 1975, occasionnant d'autres millions de morts. La liste doit être complétée par l'encouragement au massacre épouvantable des communistes et des sympathisants du Parti communiste en 1965 et 1966 en Indonésie. Ce furent les pires après l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale commis par les Hitlériens. Le nombre des victimes se situe entre 500 000 et 3 millions de personnes assassinées. Au moins 2 autres millions furent emprisonnés ou déportés dans les camps. La liste des camps de concentration et des prisons serait malheureusement bien longue à énumérer. S'il est juste de remarquer que le lancement des bombes nucléaires sur les populations civiles de Hiroshima et Nagasaki fut moins le dernier acte militaire de la Deuxième Guerre mondiale que la première opération majeure de la guerre diplomatique froide contre l'URSS, ayons à l'esprit que la dite guerre diplomatique froide fut chaude, excessivement chaude, et même à tendance exterminatrice pour les peuples et les communistes alliés à l'URSS. Mais cela, vous ne le lirez jamais dans la presse dite libre.